Vous écoutez
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Qui va sortir la première, Alcaraz? Oui, la première est dedans.
Oh, oh là là, elle est pas partie.
C'est incroyable.
On est forcément un petit peu déçu de pas de l'avoir, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière, cette finale exceptionnelle.
Oh là là, Lucas Alcaraz,
la mythe le long de la ligne.
Alors là, tu prends des percutes, hein?
Non.
Et il pousse le public, évidemment, il en veut.
That's very tough. But it's sad for tennis. I mean, Carlos, defending champion.
Ça revient encore. Passing, volé avec Sinner, magnifique. Oh là là, les nerfs qu'il a eu.
Ouais, pas de stress.
Fabuleux.
Yeah, it is very sad, and I was not expecting that.
Oh, il finit sur un passing, deux coups droits, Carlos Alcaraz. Cette finale mythique.
C'est incroyable.
S'achève sur un winner.
C'est l'information sport du week-end. Carlos Alcaraz, forfait pour les internationaux de France dans un mois. Le double vainqueur du tournoi l'a officialisé hier soir sur ses réseaux sociaux. Alors c'est une demi-surprise, hein, parce qu'on savait déjà que l'Espagnol souffrait d'une blessure au poignet droit qui l'aurait contraint à renoncer au Masters 1000 de Madrid. Les GG, je vous pose la question ce matin. Très simple. Alcaraz, forfait pour Roland Garros. Est-ce que sans l'Espagnol, le tournoi perd de son intérêt? Christophe Cessieux.
Oui.
Denis Charvet.
Oui. Pardon, c'est mieux avec le micro. Oui, évidemment.
Mario Bartoli.
Non.
Sarah Pitkowski.
Non.
Comme je suis surpris, tiens, qu'elle joue au tennis.
Elles défendent leur tennis.
Leur
beefsteak, surtout, oui.
On vous attend au 32-16 sur WhatsApp.
On n'a pas besoin de ça pour défendre notre beefsteak.
Si, si, si.
C'est clair. Non, non, c'est clair.
Parce que vous avez des gros beefsteaks, mais un petit beefsteak en plus.
Non plus.
Je ne comprends pas du tout où vont les métaphores. Eric, salue notre voix du tennis sur RMC. Nous rejoint. Salut, Eric.
Bonjour à tous.
Eric, qui se tient le coude depuis son entrée dans le studio.
Tennis Elbow,
tout va bien?
Oui, je me suis fait mal. Il m'arrive beaucoup de trucs bizarres.
On a besoin de toi dans un mois. Hein.
C'est tournoi à Monaco.
C'est ce que j'allais dire, c'est le tournoi du journaliste de Monaco. C'est pas une histoire de cordage par hasard?
Exactement.
Il faut du temps pour récupérer.
Ça n'a rien à voir avec
Carlos. On compte sur toi, évidemment, pour Roland Garros, surtout que Carlitos n'est plus là. Alors, comment ce forfait a été annoncé et reçu par la planète tennis, Eric?
Il était 17h40 hier quand Carlitos a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Mais pour être honnête, après son discours lundi au Laureus Awards, la surprise était relative, souvenez-vous.
Comme je l'ai dit, si Dieu le veut, j'ai une longue carrière devant moi, beaucoup d'années à venir. Forcer pour Roland Garros pourrait me pénaliser énormément pour les tournois à venir. On va voir ce que donneront les examens, mais je préfère revenir un peu plus tard plutôt que de me précipiter.
Mais dans l'enceinte de la Cara Magica, le coup de massue est perceptible. Écoutez Yannick Sinner qui fait répéter le speaker lorsque celui-ci lui annonce le forfait de l'Espagnol.
Oui, c'est difficile. C'est très difficile. Vous savez, ce genre de blessure, il faut y aller très lentement. Mais c'est triste pour le tennis. Je veux dire, Carlos, c'est le champion en titre. Moi, étant un compétiteur, je veux toujours jouer contre le meilleur du monde. Et il est le meilleur du monde sur cette surface. C'est une mauvaise nouvelle, donc je souhaite qu'il récupère au plus vite. J'espère qu'il sera prêt pour Wimbledon, mais c'est très triste et je ne m'y attendais pas.
Amélie Mauresmo, la directrice de Roland Garros, a réagi à la perte de son double tenant du titre. C'est seulement la cinquième fois de l'histoire qu'un tenant du titre ne peut défendre son bien.
Première chose, c'est de penser tout d'abord à Carlos Alcaraz, qui a eu une décision forcément très difficile à prendre pour lui. C'est combien il est attaché au tournoi de Roland-Garros, double tenant du titre. Pour nous, on est forcément un petit peu déçus de pas l'avoir, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière, cette finale exceptionnelle, et les deux éditions qui ont été marquées de son empreinte. Déçu un petit peu aussi pour le public, hein, forcément, qui espérait le voir évoluer sur nos courts.
Rafa Nadal a aussi réagi sur les réseaux sociaux. Maintenant, au moment du tirage au sort, le jeudi 21 mai, la tension sera palpable. Les 126 joueurs qui attendront d'être placés voudront être situés dans la partie basse du tableau. Parce qu'évidemment, les chances d'atteindre une finale d'un chelem seront évidemment plus importantes.
Merci Eric, tu restes avec nous. Alcaraz, forfait pour Roland Garros. Tiens, avant de rentrer dans notre débat, d'abord peut-être une réaction, Marion. Le forfait d'Alcaraz, c'est quand même, c'est un séisme dans la planète tennis.
Bien évidemment, comme l'a parfaitement expliqué Amélie, lorsque vous avez votre tenant du titre qui ne peut pas participer au tournoi de Roland-Garros, c'est bien sûr un séisme, mais ce sont des blessures qui font partie d'une carrière. On sait très bien que toutes les articulations, les poignets, les épaules, les genoux, les hanches, les chevilles sont soumis à rude épreuve, surtout avec les vitesses de balles qui augmentent de plus en plus, la lourdeur des balles aussi qui augmente de plus en plus. Carlos Alcaraz est un joueur avec un jeu extrêmement énergivore, donc malheureusement, on est forcément bien sûr déçu parce qu'on voulait avoir un remake de cette finale, mais en aucun cas pour moi, Roland-Garros est un tel monument qu'il est plus grand que n'importe quel autre joueur, et c'est la même chose pour Wimbledon, c'est la même chose pour les tournois du Grand Chelem. Les tournois du Grand Chelem resteront, et les joueurs, bien sûr, par certaines décennies passent, arrivent, font le spectacle, mais le tournoi restera au-dessus de ça. Donc bien sûr qu'on est déçu, bien sûr qu'on aimerait, on aurait aimé le voir, bien évidemment c'est une évidence, mais en revanche le tournoi reste au-dessus de n'importe quel joueur, et ça je crois que c'est important de le rappeler.
Christophe, pour toi le tournoi perd un peu de son intérêt quand même, tu disais?
Bah oui, forcément, quand le vainqueur sortant n'est pas là, quand celui qui justement pousse Sinner dans, est le seul à pouvoir pousser Sinner dans ses derniers retranchements n'est pas là, c'est un peu comme si Pogacar, on apprenait que Pogacar ne participait pas au Tour de France. Alors,
je te pose la question.
C'est pas
si Pogacar est pas au départ du Tour de France, le Tour de France sera beaucoup moins intéressant pour toi?
Il y aura moins d'intérêt. Ouais.
Alors, si c'est le cas, je veux qu'on pose le débat et j'attends ta réponse ce jour-là. Si tu défends pas le Tour de France, ton événement à toi.
Je comprends pas pourquoi tu m'attaques là-dessus. Parce que pour toi, ce serait bien que Pogacar soit pas là. Que s'il ne soit pas là.
Mais non, mais le Tour de France reste au-dessus. Mais c'est le Tour de France reste au-dessus, c'est ça qu'elle veut dire.
Le Tour de France resterait au-dessus, tu dis pas. Tu vas pas dire que le Tour de France va perdre son intérêt.
Au-dessus, mais le Tour de France n'est jamais aussi magnifique que quand tous ces champions sont là. Surtout cette année.
Ça, c'est une évidence.
Participe au Tour de France, tout le monde, toute la planète entière a envie de voir la bagarre entre Sexas et Pogacar.
Si un des deux n'est pas là, tu dis le Tour de France va perdre de son intérêt.
Exactement.
Ben oui.
Exactement. Mais plutôt deux fois qu'une d'ailleurs.
Non mais je peux répondre à Christophe sur le fait.
Si Mbappé, Olysée et machin ne sont pas au départ de la Coupe du Monde.
C'est dommage, mais je vais regarder la Coupe du Monde et je vais avoir envie que l'équipe de France gagne.
Mais non, mais ça n'a rien à voir.
Ça ne va pas perdre son intérêt.
C'est un débat. Mais attendez, moi, la question, je ne comprends pas qu'on réponde non à la question. Il n'y a pas le Alcaraz à Roland-Garros, mais ça perd forcément de l'intérêt. Tu as le joueur le plus spectaculaire au monde sur terre battue. Le meilleur joueur au monde sur terre battue, il n'est pas là.
Rappelez-vous de cette finale incroyable l'année dernière. Là, on va avoir quoi? Finale en 3-7, 6-1, 6-2, 6-3, génial!
Non, c'est pas ça, c'est qu'on reste sur une finale, peut-être la plus belle finale de l'histoire du tennis à Roland, et t'as envie de la revoir. Et sauf que tu vas pas la revoir.
Attendez. C'est pas parce que les deux auraient été là qu'on aurait eu une finale
qu'on aurait eu un match
de 5h30 avec un scénario comme on l'a vécu.
C'est l'intérêt, Sarah, l'intérêt, c'est-à-dire que l'engouement. Moi, le premier, en tant que. Je suis amoureux du tennis comme beaucoup. J'ai envie de voir Alcaraz Sinner, je sais pas moi. Le fait qu'il n'y ait pas Alcaraz, ça m'enlève un truc.
Attendez, parce que je connais bien Marion maintenant. Marion est furieuse là. Vous imaginez pas.
Non, c'est exactement. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'en placer une, j'y arrive plus. D'entendre Christophe qui dit que seul Sinner est le joueur capable d'embêter Alcaraz ou inversement qu'Alcaraz est le seul joueur capable d'embêter Sinner. Je vais quand même rappeler que la demi-finale d'Open Australie, c'est quand même Djokovic-Sinner et que c'est Djokovic qui l'a remporté. Donc il y a quand même plein d'autres narratifs qui vont être extrêmement intéressants pendant ce Roland-Garros, dont éventuellement, quand même, je pense, ça peut énormément intéresser les gens. Un Français, comme Arthur Fils, qui peut aller extrêmement loin. Et je peux vous assurer que si Arthur Fils commence à être au milieu de la deuxième semaine et se hisser éventuellement dans un dernier carré, le fait que Carlitos n'ait malheureusement pas pu jouer Roland-Garros, ce narratif-là, il sera depuis assez longtemps oublié. Donc, bien évidemment que lorsqu'on a un tenant du titre qui ne participe pas au tournoi, bien sûr qu'on est tous malheureux et qu'on aurait envie de le voir. Mais en aucun cas, on peut dire aujourd'hui, au vu de tous les autres joueurs qui vont y participer avec On peut avoir Djokovic qui remporte un 25e tournoi du Grand Chelem. On peut avoir un Français qui peut se hisser en finale de Roland Garros. On peut avoir Sinner qui remporte pour la première fois Roland Garros. On a plein d'histoires à raconter. Et on voit très bien d'ailleurs l'année dernière l'engouement qu'il y a eu autour du tournoi grâce à Loïs Boisson. Au-delà, bien sûr, de la finale qui était historique. Jusqu'à la demi-finale perdue par Loïs, l'attraction de Roland Garros l'année dernière, c'était Loïs Boisson. Mmh. Ensuite, lorsqu'elle a perdu en demi-finale, on s'est tourné vers la finale masculine qui a été héroïque.
Mais l'engouement, on ne peut pas dire ça.
Voilà. Qui tombe des grosses têtes de série. Tu vois, et là, effectivement, on partira dans un autre truc.
Bah,
voilà.
Alors.
Donc, t'es d'accord avec moi?
Non, moi, je suis pas d'accord avec toi.
Regarde, hier, il a failli perdre au premier tour du tournoi.
Tu n'as aucune
différence. Et Sinner, hier, il a perdu un set contre Bonzi.
Oui, mais est-ce que Bonzi va gagner en
regardant
la saison? La différence d'Alcaraz, où c'était quasiment certain qu'il allait arriver en finale. Avec Arthur Fils, tu n'en sais rien, c'est de l'hypothétique. Et donc, tu n'en sais rien.
Mais t'as quand même une dynamique actuelle.
Mais non, mais Alcaraz, tu sais qui va dans le final. Il te fait la quinzaine, Alcaraz. C'est pas pareil, quand même.
Sarah, tu as intérêt de Roland Garros.
Oui, l'intérêt, il va exister parce que ce tournoi a des histoires toujours plus belles les unes que les autres et pas uniquement autour des Français. On ne parle pas aussi de Zverev qui, pour l'instant, a un plafond de verre. Oui, mais Zverev sur terre battue joue remarquablement bien. Et peut-être que ça peut être aussi son tournoi.
Tu mettrais ta résidence secondaire, tes 50 étages à la boule, sur une victoire de Zverev.
Zverev,
il était à un set de prendre Roland Garros. Quand il met 2-7-1 contre Alcaraz en finale, il était à un set de prendre Roland Garros.
Ce qui est exceptionnel dans ce tournoi, c'est qu'il ne dure pas une semaine comme la plupart des tournois, il dure quasiment 21 jours, c'est-à-dire que les histoires se racontent au fil du temps. Donc oui, si Zverev arrive en enfin à crever le plafond de verre, son histoire, elle va se raconter. On aime ou on n'aime pas le joueur, peu importe. Mais lui a peut-être aussi une occasion aujourd'hui, en tant que numéro 3 mondial, de se hisser en finale.
Plein de messages sur WhatsApp, Marion, au 06-12-424-424. Cheese qui me dit Roland Garros ne se résume pas à une finale Sinner Alcaraz, vous trompez. Guillaume qui me dit Roland Garros n'a plus aucun intérêt sans Alcaraz, ça ressort aussi beaucoup. Guillaume qui me dit, dis donc, les GG sont en forme ce matin, perdre de son intérêt ne veut pas dire devenir totalement inintéressant.
Mais le débat, c'est est-ce que ça perd de l'intérêt?
Dans 15 jours, dans 3 semaines, on va avoir Madrid, on va avoir Rome, on va avoir des tournois de préparation.
La nature a horreur du vide.
Tu sais quoi, un champion va
surgir. Le 23 mai,
l'histoire Alcaraz, on l'aura derrière. On va se concentrer sur autre chose. C'est parce que là, c'est frais. Et donc, il y a le choc de dire s'il prend une décision aussi en amont de Roland Garros, c'est de se dire
la blessure des Roland Garros.
Marion a raison, Rafa a raté des Roland Garros.
Mais Rafa a raté des Roland Garros. Et les Roland Garros ont eu lieu, il y a eu des histoires à raconter.
Personne qui regardait la télé. On regardait pour savoir si Federer allait enfin gagner.
C'est pas possible.
Vous avez la mémoire courte parce qu'il y a eu des Roland Garros complètement insignifiants, sans intérêt. Il y en a eu comme justement Nadal jouait pas. Il y a eu des Roland Garros.
Mais tu regardais pour savoir si Federer allait gagner. N'importe quoi.
Quand il y avait Tsitsipas Djokovic en finale, c'était insignifiant pour toi? Ou Tsitsipas met 2-7 à 0, c'était insignifiant?
Sans Caras, le tournoi de Roland Garros se résume à un tournoi de ping-pong.
N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a pris ce matin?
Il est tellement favori.
Faites-lui un test antidopage, s'il vous plaît.
Nadal, quand il gagnait trop facilement, il y avait aussi un manque d'intérêt. On disait oui, mais enfin, de toute manière, on connaît déjà le vainqueur avant même que le tournoi commence. Donc il y a eu aussi un petit manque d'intérêt quand Nadal était au-dessus de tout le monde. Donc ça, c'est
moi, je trouve que ça enlève tout le charme de Roland Garros.
Alors, tu sais quoi,
Alcaraz,
si je te vois,
tu vas pas regarder Roland Garros.
Je vais pas y aller.
Denis, si je te vois
une fois dans les tribunes de Roland Garros, tu vas pas regarder.
Non, par contre,
si je te vois une fois dans les tribunes de Roland Garros, je te bannis d'émission des grandes gueules. C'est clair.
Et du super basket au chevet de vie aussi.
On ne veut pas te voir pendant 15 jours.
Mais c'est vrai que ça met une pression, Marion, ça met une pression terrible sur Sinner aussi. Non, pour le coup, c'est l'occasion jamais. Eric.
On va s'intéresser à Roland si un Français va loin. Donc, voilà, je déclenche tout de suite le trucage du tirage au sort.
Je déclenche l'opération. Truquez-moi le tirage au sort. Il faut qu'Arthur Fils sorte le plus tard possible. Je ne sais pas qui sera la personnalité qui tirera les boules, mais il faut faire quelque chose.
Marion, tu veux faire un truc ?
Arthur, vers la fin.
Marion, tu les connais les boules, là, tu veux faire un truc ?
Non, mais arrêtez, mais vous êtes complètement malade ce matin, en fait.
Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont pris au petit déjeuner ? Moi, c'est pas possible, je peux pas entendre.
Moi,
tout
je suis
ça.
Pour Eric. Trucons les boules.
Arrête. Dis n'importe quoi.
Non, mais il a tout dit, Eric. Il n'y a pas le français en seconde semaine. Ça va être terrible.
Voilà. Message pour Amélie Mauresmo. C'était une vanne. Le tirage sort plus oui, évidemment. C'était une vanne. On ne prend pas ça au sérieux. Hein. Voilà. On vient de faire un test antidopage à Christophe Cessieux. Il est positif. Hein, donc suspendu pour la fin de l'émission.
Bah, je suis d'accord. Voilà, exactement.
Tu peux sortir,
Christophe. Je le savais.
Tiens, on a pas mal de messages. On a pas mal de messages sur WhatsApp ce matin. Tiens, Fred nous dit bonne émission toutes les GG, je vous écoute en prenant mon petit déj après ma sortie running. Je suis d'accord qu'on court plus vite quand les GG nous énervent. Ben voilà. Donc je pense que là, a priori, vu le début d'émission, il y a quelques records qui vont tomber.
Vous êtes au point de vitesse de Jimmy Gressier à 380 km.
Des records vont tomber ce matin grâce aux grandes gueules du sport. On revient dans un instant.
Coach que Benoît Boutron, hein, qui finalement ne fait pas courir ses doigts.
Sur RMC Running, évidemment, Benoît Boutron. Écoutez, évidemment, si vous avez envie d'avoir des conseils running. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport qui portent très bien leur nom ce matin en grande forme. Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski et Denis Charvet. On est à un mois de Roland Garros et Alcaraz, Carlos Alcaraz, le double tenant du titre, est donc forfait sans l'Espagnol. Le tournoi perd-il de son intérêt ? Ça vous fait beaucoup réagir sur WhatsApp et au 32-16 également. On va vous écouter. Tiens, JB nous appelle de Vendée. Salut JB, bienvenue dans les grandes gueules du sport.
Salut à tous.
Bonjour.
Comment ça va ?
Bonjour.
Salut, ça va, Sarah, tu vois que
salut, ça va très
bien. Salut. Pour une fois, je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec Denis. Dis bonjour à tout le monde. Donc ouais, moi je suis en Vendée. Depuis un moment, je suis en Vendée. Je suis au tennis club de Luçon. Et là, en ce moment, c'est les vacances chez nous, et donc on n'a pas eu le débat encore au club. Mais on va l'avoir dès lundi. Non, mais moi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que le fait d'avoir appris ça, c'est comme si il y avait, je sais pas, une pierre qui nous tombe, même pas un espèce de volcan qui nous tombait dessus, quoi. C'est des ouragans qui nous
arrivent. Bah oui,
dessus.
Bien sûr.
Alors, par contre, je vais argumenter, moi. Mon argument, c'est que. Vous savez, il y a toujours une histoire avec Roland qui est particulière. Par exemple, on parle de peut-être Zverev, peut-être ceci, peut-être cela. Et si c'était une surprise cette année encore ? Parce qu'on a souvent des surprises à Roland. Et moi, la surprise à laquelle je pense, moi, il y a un petit peu d'argument à Monaco avec Vacherot. On a aussi Altman qui est pas si mal. Et puis parce que on va pas commencer à mettre la pression à Arthur parce que ça va nous faire une songasse encore.
Ah bah oui, mais tu mets pas la pression à Arthur, mais tu nous parles de Terence Altman et de Valentin.
Bah attends, Joe, il a quand même fait demi-finale. Non, mais attends, Joe, il a quand même fait demi-finale de Roland. Il a pas non plus, il a pas fait premier tour chaque année, hein.
Non, mais toi, en tout cas.
Ouais, mais le truc, c'est qu'à un moment, on y pensait tellement, et j'étais à ce match-là, moi. On y pensait tellement. Que je pense qu'à un moment, on s'est dit, t'as fait, c'est Joe, il va gagner cette année. Tu te rappelles, Marion? Joe, on y va.
Mais oui, je m'en rappelle très bien.
Alors, il va gagner, puis bim, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il se prend 3-7.
Ça, oui, mais bon, c'était sur Ferrer, dans un stade vide, parce qu'il y avait une demi de malade avant avec Nadal et Djokovic, et qui avait duré 6 heures, et que c'était un contexte très particulier. Mais il faut quand même rappeler que Joe a fait des Roland-Garros monstrueux, qui a été capable d'atteindre le dernier carré, et qu'il était dans une ère du tennis masculin avec que des tableaux extrêmement difficiles. Il a battu d'ailleurs Roger. Donc, il avait fait quand même un temps absolument exceptionnel. Moi, à chaque fois, le bashing sur les Français, entre guillemets, en disant oui, mais ils n'ont pas réussi à Roland-Garros, faire des derniers carrés à Roland-Garros au vu des joueurs qu'ils ont été capables de battre, je trouve quand même que c'était déjà des résultats exceptionnels. Mais après, on est tous d'accord sur le fait que, bien sûr, de perdre Carlos, bien évidemment, qu'on est triste et on aurait aimé le voir, c'est une évidence. Mais ce que je veux dire, c'est que le tournoi ne s'arrête pas là. Et il n'y a pas, on va pas avoir zéro à la fois spectateur et téléspectateur parce que Carlos va pas jouer le tournoi et qu'il y a plein d'autres histoires à raconter.
Je remercie JB de nous avoir appelé au 32-16. Mais d'ailleurs, avant de prendre Eli dans quelques instants qui nous appelle également, vous avez vu que depuis tout à l'heure on parle d'Arthur Fils hein, quand même hein. Mais regardez, il y a peut-être un narratif qui va se créer. Non mais est-ce que ça ne va pas créer aussi une attente démesurée autour d'Arthur Fils? Est-ce que c'est pas le risque?
Surtout la pression sur lui, oui, évidemment. On va parler que de lui là, je pense.
On en aurait parlé quoi qu'il arrive.
Mais là forcément plus.
Oui, non, mais là plus parce qu'il va être dans le rôle du challenger.
Sarah.
Ça nous arrange de le mettre dans le rôle du challenger, mais il a pas fait de deuxième semaine de Grand Chelem. Soyons juste raisonnables. Il est en train de revenir. Ça fait 3 mois.
Il a fait un 8e à Wim.
Donc le lundi.
Ben oui, mais donc il avait.
Il perd sur Domino.
Mais ce que je veux dire, c'est que il est revenu depuis 3 mois et demi. Il est en train de monter en puissance. Enfin, je veux dire, ça nous arrange de le mettre en outsider, mais c'est pas le premier outsider d'Alcaraz Sinner, si Alcaraz avait été là. C'est parce que nous, on est français, on focalise. Voilà, je suis pas sûr qu'on mette plus.
Il est quatrième favori aujourd'hui, je vous dis, dans les cotes des vainqueurs potentiels.
Oui, parce qu'entre Alcaraz,
il vient de gagner Barcelone,
derrière Sinner, Zverev et Djokovic.
T'as mis un petit billet, toi.
Mais non, on peut les tout.
Mais bien sûr.
Je précise aussi.
Au vu de sa forme actuelle, il vient de gagner Barcelone. Hier, il s'en sort sur un joueur où il est mené 7-6. 0-0-30, on sent que son adversaire en face, le Péruvien Buzet, est en pleine forme, prend tous les risques, il arrive à retourner ce genre de match. Il a plein de signes positifs qui montrent que, bien évidemment, il est en train de s'installer comme un très gros outsider potentiel à Roland-Garros. Alors après, bien sûr qu'il y a la difficulté au tournoi du Grand Chelem, qui sont en 5-7, qui sont en des formats différents, qu'il a plus joué en tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros l'année dernière, donc il n'a pas les points de repère ni sur Wimbledon, ni sur l'US Open, ni sur l'Open d'Australie, et que toute cette dynamique d'un tournoi du Grand Chelem qui est différente d'un tournoi en 3-7, il faut la reprendre. Mais il a plein de signaux positifs qui montrent qu'il sera capable de gérer ça.
Christophe, Arthur Fils, là, est-ce qu'on va pas justement trop en parler, peut-être, du coup, de par l'absence d'Alcaraz?
Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement d'absences, on attend tellement. C'est le parallèle avec le Tour est tout à fait trouvé cette année. C'est-à-dire que là aussi, sur le Tour, on attend un mec depuis des années capable de gagner, ou en tout cas performer, d'être dans top 5. Et ben, en tennis, c'est la même chose. On a besoin d'un garçon qui nous fasse vibrer, parce que le tournoi de Roland Garros pour les garçons, depuis quelques années, c'est les premiers jours de la première semaine. Et puis derrière, tout s'envole. Sauf Loïs l'année dernière qui va presque jusqu'au bout et qui nous a fait rêver. Mais on a besoin d'un garçon qui s'installe dans la durée et qui nous fait vibrer tous les ans. On a souvent tapé sur les mousquetaires, mais il n'empêche qu'ils étaient là.
Ils étaient là, hein.
Ce que je veux dire, c'est qu'une partie du public va peut-être attendre un peu plus Arthur Fils au tournant. En fait, c'est ça qu'il faut, il faut imaginer. En tout cas, attendre au tournant, mais en tout cas, avoir des attentes un peu plus importantes
que par rapport à Sinner.
Mais parce qu'il y a des gens qui s'intéressent au tennis pendant la fenêtre de Roland Garros.
Ah ben oui, mais c'est comme ça.
Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'Alcaraz est pas là ou là. De toute manière, on est en train de focusser comme jamais sur Arthur parce qu'il fait un début de saison remarquable. Il est en train de jouer sur terre battue remarquablement bien. On voit qu'il a une autre stature, une autre mentalité, une autre sérénité. Donc on le voit aller loin. Mais j'ai pas l'impression que, en fait, si, on va parler d'Arthur Fils beaucoup plus s'il va loin à Madrid. S'il rejoue Rome derrière, c'est-à-dire que s'il arrive dans les derniers carrés de ces deux Master 1000, oui, Oui, déjà, on va en parler. Barcelone, mais c'est décorrélé d'Alcaraz, en fait. Oui, c'est décorrélé.
Il aura quand même plus de pression parce qu'Alcaraz n'est pas là, je pense.
Il a la pression.
C'est comme Paul Sexas au départ du tour. Si Pogacar n'est pas là, évidemment, on va commencer à faire des titres pour dire est-ce que Sexas peut gagner le tour. Alors qu'avant, on aurait dit est-ce qu'il peut faire un podium.
Bien sûr.
Et le public, pareil. C'est pas normalement médiatique.
Mais on en parle, sauf qu'on met pas le même objectif à la fin, mais on en parle tout autant.
Oui, mais la pression sur le joueur va être énorme.
Max Fils va gagner Roland Garros aujourd'hui, évidemment. Ilaï, au 32-16, nous appelle. Du Tarn-et-Garonne de Montauban. Salut Ilaï.
Montauban, nous
salut tout le monde. Bonjour Sarah, Marion, comment allez-vous?
Écoute, on est pas mal. Est-ce que Roland Garros perd un peu de son intérêt sans Alcaraz? Tu nous écoutes depuis tout à l'heure.
Pas du tout. De toute façon, Roland Garros perdra jamais de son intérêt, même si Alcaraz et Sinner et Novak et Arthur sont pas là. Ça reste le plus grand tournoi du monde de tennis, tout court, de toute façon. Donc là-dessus, que ce soit très clair, c'est pas parce qu'il y a un joueur qui est pas là que ça devient inintéressant. Et puis là, ça ouvre des perspectives, comme vous en avez parlé, pour Arthur, bien sûr. Mais de toute façon, pour Arthur, moi, je suis d'accord avec Sarah, ça change absolument rien. Il arrivera avec un dossard de challenger un peu favori pour aller en deuxième semaine. Mais voilà, ça change pas grand-chose. Il faut qu'il fasse un beau tournoi. Non, par contre, je pense que pour le joueur pour lequel ça va vraiment, vraiment ouvrir des perspectives, c'est Novak. Parce que Novak, je vous rappelle qu'il a battu Sinner à l'Open d'Australie.
À l'Australie.
Que Novak, s'il y a un des deux qui est absent, eh ben, pour l'instant,
c'est le meilleur. Il fait un gros match en moins.
C'est le meilleur des autres. Et puis, ça lui fait, comme tu dis, un match en moins. Pour peu que Sinner, on a vu qu'il peut être inquiété. Il a été bien inquiété par Bonzi hier, qui est entraîné par le futur coach
Nicolas
de l'année, je l'annonce. Voilà, Nicolas Mahut et qui sait. Mais si Novak il arrive à avancer et qu'il ait de la confiance et pas trop perdre d'énergie et de plumes sur la route, il peut faire 25. En fait, il peut faire 25.
On attend de savoir aussi si Djokovic sera là, hein, parce que pour l'instant il a joué aucun tournoi sur terre battue.
Blessé, hein.
Non, je sais.
Il est pas blessé, Djokovic.
Non, mais Djokovic s'en fait
ses choix.
Il s'entraîne sur terre.
Mais ouais. Il s'entraîne sur terre, Marion, t'as les infos ?
Oui, il s'entraîne sur terre, il alterne entre une résidence qu'il a en Espagne et également en Serbie, donc il fait ses blocs de préparation sur terre battue. Après, comme le dit très justement Sarah, effectivement, il est à un âge et un moment de sa carrière où il choisit ses événements, il choisit ses tournois, il ne peut plus faire des programmations entières, mais on a très bien vu qu'à l'Open d'Australie, il est arrivé archi prêt. Enfin, je veux dire, pour les passionnés de tennis, regardez à nouveau les deux demi-finales masculines, à la fois celle d'Alcaraz contre Zverev et celle de Djokovic contre Sinner, ce sont des monuments du tennis. Et malheureusement pour Novak, il a calé au bout d'un set en finale où physiquement ça commençait à vraiment attirer contre Alcaraz. Mais comme le dit très justement Ilaï, s'il y a un de ces très gros joueurs en moins, bah ça lui fait un très gros combat en moins. Et on sait très bien que un joueur qui a remporté 24 tournois du Grand Chelem, la gestion des efforts, il les connaît à la perfection. Et que si entre guillemets à son niveau, il a qu'un gros match à jouer, parce que je vous rappelle quand même que l'année dernière, il bat Zverev. Je vais pas dire assez facilement, mais quand même, il lui donne une leçon de tennis à Roland Garros, Novak Djokovic. Donc, le très grand adversaire qu'il va avoir s'il arrive prêt, ça sera Yannick Sinner. Mais ça sera plus Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Et ça, pour Djokovic, ça peut faire une énorme différence dans le résultat final.
Je remercie Ilaï de nous avoir appelé au 32-16 et tous les appels que l'on a eu au standard, évidemment, pour participer à ce débat sur Alcaraz. Donc, forfait pour Roland Garros dans un mois. Évidemment, ça sera à suivre en intégralité sur RMC, les internationaux de France.